Les premiers jours à Eous passent sans qu'aucun des trois ne s'en aperçoive vraiment. Ce sont des jours calmes et doux, des jours pour prendre leur marque tous ensemble, pour établir une petite routine. Le premier matin au réveil, Émile trouve le studio vide. En allant se pencher à la petite lucarne au-dessus des plaques de cuisson, il aperçoit Johan sur la terrasse en train de nourrir Canaille. La chatte, réputée pour être méfiante, a déjà adopté Johan. Ça n'étonne pas, Émile. Johan est discrète, calme et silencieuse. Elle doit inspirer confiance. Johan ne lui en veut pas pour la veille au soir, pour avoir chassé Poc de leur studio. Laura aurait boudé pendant des heures, mais Johan non. Ce premier matin, ils prennent le petit déjeuner dans la cour intérieure en regardant les chats faire leur toilette. Ensuite, Émile s'occupe d'arroser les fleurs de myrtille pendant que Johan part faire quelques courses dans le village. L'après-midi, il commence à regrouper les papiers nécessaires pour le mariage pendant que Myrtille fait sa sieste dans son fauteuil.
Mince !
Johan esquisse une moue embarrassée. Quoi ?
J'ai pas d'acte de naissance avec moi.
Ah ! Émile a pris l'intégralité des papiers qui traînaient chez lui en partant. Il y a tout. De l'acte de naissance à son brevet de sécurité routière obtenu 10 ans auparavant. Il s'en félicite.
Je pensais pas en avoir besoin.
Essaie d'appeler la mairie où tu es né. Il y a peut-être une possibilité de te le faire envoyer par courrier. C'est ce que Johan fait. Quand elle raccroche, ils ont la confirmation qu'une bonne étoile veille sur eux.
Ma ville fait partie des rares communes pour lesquelles on peut faire une demande d'acte de naissance en ligne.
Le lendemain matin, Johan part à la recherche d'un cybercafé ou d'un quelconque commerce qui pourrait lui offrir un accès Internet afin de faire sa demande d'acte de naissance. Émile propose à la vieille dame de l'installer dans la cour intérieure. C'est une journée plus fraîche. Le ciel est gris. Il menace de pleuvoir, mais le platane les protégera. À sa surprise, Myrtille accepte.
« Vous voulez un thé ?» propose-t-il.
« J'ai l'habitude de boire des thés à longueur de journée. »«
Ma foi, je veux bien. »
Ils se mettent d'accord pour installer les boîtes à thé en bas dans le salon de la vieille dame pour des raisons de commodité. Sous le platane, Émile installe les tasses fumantes. Il ouvre son carnet noir tandis que Myrtille étend ses jambes devant elle et que Canaille saute pour s'y installer.
« C'est quoi votre carnet ?»«
Oh, un genre de journal de bord. »
La vieille dame le fixe de ses yeux étonnamment bleus.
Ma fille dit que vous allez vous marier ici.
Ouais, c'est vrai.
Quand?
Quand on aura réuni tous les papiers.
Myrtille a un hochement de tête imperceptible, comme si elle comprenait quelque chose.
Ça n'était pas vraiment prévu, hein?
Pardon?
Ce mariage.
Il préfère être honnête avec elle, au moins en partie.
Non, c'est vrai.
Myrtille a un demi-sourire qu'il ne comprend pas tout de suite. C'est quand il la voit poser sa main sur son ventre qu'il comprend.
« Oh non, 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 c'est pas ça !»
Mais Myrtille lève les yeux au ciel, l'air de dire qu'elle n'est pas dupe.
« Je vous promets, ça n'a vraiment rien à voir !»
Plus il insiste, plus le sourire de Myrtille s'élargit.
« Johan n'attend pas de... Oh, c'est idiot !»
Il se demande s'il ne vaut mieux pas laisser tomber.
De toute façon, dans un mois, ils auront disparu d'ici, alors.
Myrtille fait claquer sa langue contre son palais.
On me la fait pas, à moi. Il suffit de voir son comportement avec le chaton.
Pardon?
Elle n'attend que ça de pouponner.
Il secoue encore la tête pour faire comprendre à la vieille dame que ça n'est pas vraiment le cas.
« Allez, je vous laisse écrire dans votre journal de bord. »«
Myrtille, vous vous méprenez. »«
Écrivez donc, ne vous occupez plus de moi. »«
Vous faites vraiment fausse route. »«
Écrivez donc. »
Il préfère abandonner devant l'entêtement de Myrtille. Johan et lui attendent un bébé, si Myrtille savait. Il se met à pleuvoir tout doucement. Sous le platane, ils sont parfaitement protégés. Émile écrit par petites touches, décrivant Éousse et ses ruelles, susautant son stylo, buvant une gorgée de thé. Il n'a finalement écrit que 3 lignes lorsque la porte d'entrée claque et que Johan apparaît en haut des petites marches, trempé des pieds à la tête.
« Alors ?» demande Émile sans autre forme d'introduction. « Tu as trouvé ?»«
Oui, il y a un petit café avec une connexion Internet en face de l'église. »
« Tu as pu faire une demande ?»«
Oui, l'acte de naissance me sera envoyé par mail. Il faudra que j'aille vérifier de temps en temps. »
Myrtille claque sa langue contre son palais comme tout à l'heure.
« On dirait bien que ça ne peut pas attendre ce mariage !»
Johan ne comprend pas. Elle lance un regard interrogateur à Émile qui lui fait signe qu'il lui expliquera plus tard.
« Où est Poc ? »
interroge-t-elle en ébouriffant ses cheveux mouillés.
« Poc ?»
demande Myrtille.
« Le chaton, » explique Émile. « Elle l'a nommé Poc. »
« Ah !»
Elle a de nouveau ce regard qui semble en dire long.
« Où il est ?»
insiste Johan. Myrtille lui répond avec son large sourire.
« Dans son panier, ma belle, dans son panier !»
Ce soir-là, Myrtille leur parle de sa vie à Éousse, de son mari, qui était coutelier et qui s'appelait Eugène. Ils sont nés tous les deux ici. Myrtille a élevé 4 filles. Annie est la seule de ses enfants à ne pas avoir quitté Éousse et sa mère. Ses 3 sœurs vivent aux 4 coins de la France. Elle a passé sa vie à gérer son foyer. Puis elle a aidé son mari à la boutique de couteaux quand ses filles ont quitté la maison, jusqu'à la mort d'Eugène. Émile et Johan sont attentifs, lui posent des questions, la relancent sur tel ou tel détail, mais à peine. Myrtille n'a pas besoin d'eux. Elle semble éprouver le besoin de fouiller sa mémoire et de raconter encore et encore. Au temps où les filles étaient enfants, Eugène et Myrtille partaient en balade autour d'Éousse tous les week-ends. Ils emportaient le panier de pique-nique et se trouvaient un petit coin de verdure près d'un point d'eau. Les filles jouaient à la corde ou à la poupée. Elles barbotaient dans un ruisseau. Eugène reposait ses mains blessées par les lames qu'il maniait toute la journée. Myrtille veillait sur son petit monde avec sérénité. L'école se faisait à la maison. Myrtille a un regard apaisé sur sa vie. Elle semble l'avoir menée exactement comme elle le voulait.
« Je n'ai pas choisi Eugène pour mari. C'était une union arrangée. Nos parents étaient parmi les plus anciens du village. »
Lorsque Johan lui demande si elle en a été malheureuse, elle secoue la tête et ses yeux brillent encore plus fort.
« Non, je n'aurais voulu avoir personne d'autre pour mari. »
Au matin du 3e jour, Émile part poster sa lettre à Marjorie. Johan est censé se rendre au bureau de poste du village car il dispose d'une petite imprimante et qu'elle a promis à Annie et Myrtille d'imprimer des affiches pour trouver une famille d'adoption à Poc. Émile l'a laissée sans l'ombre d'un doute, elle ne le fera pas. Elle s'arrangera pour ne pas le faire. Il redescend le village à pied, salue Jean, qui surveille l'arrivée des touristes du jour, traverse le passage dans les murailles et retrouve le camping-car sur le parking. Il a dit à Johan et Myrtille qu'il serait de retour pour le dîner ce soir. Il n'a aucune idée de l'endroit où il va se rendre. Il compte prendre l'autoroute et suivre une direction au hasard. Il roule toute la matinée. À midi, il s'arrête sur une aire de repos et se fait chauffer une conserve de petits pois qu'il mange avec un reste de compote à la banane. Il fait une sieste sur la banquette du bas, puis reprend la route. Lorsqu'il prend une sortie au hasard vers 15h, il se rend compte qu'il est déjà tard et qu'il a beaucoup roulé. Il ne se souvient plus vraiment où il va, pourquoi il a pris la route. Il essaie de dissiper le doute en lisant les panneaux sur la route, mais aucun nom de ville ne lui parle, et il est incapable de se rappeler pourquoi il est là. Il se souvient d'être parti de chez Myrtille ce matin, avoir laissé Johan dans le studio à l'étage. La mémoire lui revient quelques secondes plus tard. Rien de grave. Il en a connu des centaines de petits trous de mémoire de la sorte ces derniers mois. Celui-ci était plutôt anodin, et il est conscient qu'il a eu de la chance. Ça aurait pu être pire. Il trouve la poste en suivant les panneaux qui indiquent l'église. La poste lui fait face. Le guichet est encore ouvert et il rachète un carnet entier de timbres pour les prochaines lettres. quand il remonte dans le camping-car, il se sent harassé et il a la désagréable impression d'avoir perdu une journée. Il a hâte de rentrer et de retrouver Johan. Il est certain que Pock sera sur ses genoux. Les kilomètres défilent. Il fait un effort surhumain pour rester concentré, mais il se sent épuisé par toute cette route. Le soleil décline. Il s'arrête sur une aire d'autoroute pour prendre un café et refaire le plein d'essence. Le tableau de bord indique 20 heures et il comprend qu'il ne sera jamais rentré pour le dîner. Il se demande si Myrtille et Johan mangeront dans la cour intérieure ensemble. Il espère qu'elles ne s'inquiéteront pas. Il est 22 heures quand il entre sur le parking au pied des murailles d'Eus. Il a passé sa journée sur la route. Il a du mal à se souvenir comment il a occupé son esprit toutes ces heures durant. La maison est plongée dans l'obscurité. Myrtille doit déjà être au lit. Dans le studio, il trouve Johan assise dans le canapé d'angle, un livre de Myrtille entre les mains. Pock et Canaille sont lovés à côté d'elle. Canaille fait la toilette de son petit. Émile est heureux de retrouver Johan. La journée a été longue et il s'aperçoit que la présence de Johan lui a manqué. Elle lève la tête de son livre dès qu'elle entend ses pas étouffés sur la moquette.
« Salut, t'es rentré ?»
Elle a un petit air anxieux sur le visage. Est-ce qu'elle s'est fait du souci ?«
Ouais, j'ai roulé un peu trop loin, je m'en suis aperçu trop tard. »
Elle pose le livre à côté d'elle et se redresse. Canaille vient le renifler.
« Tu as posté ta lettre ?»«
Ouais. »
Il vient s'asseoir sur le canapé à côté d'elle et retire ses chaussures.
« Et toi, qu'est-ce que t'as fait ?»«
J'ai aidé Myrtille à réorganiser son salon. »«
Ah ouais ?»
Elle hoche la tête avec un sourire satisfait sur le visage.
« Oui, on lui a aménagé un coin pour la sieste plus près de la porte-fenêtre pour qu'elle puisse profiter de la brise sans sortir. »«
Je suis désolé, vous avez dû m'attendre pour dîner. »
Myrtille était fatiguée ce soir. Je l'ai emmenée se coucher avant le dîner.
Tu m'étonnes. Tu lui as fait déménager tout son salon, pauvre vieille.
Elle m'a seulement donné les instructions.
Il manque encore quelques semaines pour que Johan comprenne l'humour. Ça viendra.
Et Pock ?
Quoi, Pock ?
Tu as imprimé des affiches pour lui trouver une famille ?
Le regard de Johan se fait fuyant. Elle tente de répondre en prenant un air détaché, mais elle ment très mal.
J'ai pas vraiment eu le temps avec le réaménagement du salon.
Il essaie de masquer le sourire qui est en train de naître sur son visage. Il ne veut pas que Johan le voie. Il aime bien s'amuser à la voir gênée. Elle se lève, sans doute pour faire diversion et clore la conversation.
Je ramène Canaille et Pock en bas, pour la nuit.
D'accord, je déplie le canapé.
Il est allongé dans l'obscurité lorsque Johan regagne l'étage. Elle se glisse sous la couverture à l'autre bout du lit.
« Je pensais... »
murmure-t-elle dans le noir.
« Ouais ?»«
Demain, on pourrait visiter le village de Côme. Tu sais, le village de ruines. Myrtille m'en a parlé aujourd'hui. »«
Ah ouais ?»«
Ouais. Eugène et elle aimaient s'y promener quand ils n'avaient pas encore les filles. » Elle dit que c'est beau et dramatique à la fois.
Il se moque un peu pour la forme. Beau et dramatique à la fois.
C'est ce qu'elle a dit.
Elle dit beaucoup de bêtises.
Émile !
Mais c'est vrai. Elle croit que t'es enceinte.
Quoi ?
Il la sent se relever sur un coude.
Tu plaisantes ?
Non. Elle pense que c'est pour ça qu'on se marie précipitamment.
Et tu lui as pas dit que c'était faux ?
Si. Mais elle est têtue, elle veut rien savoir.
Le silence retombe un instant dans la pièce. Il distingue l'ombre de Johan qui attend, toujours appuyé sur un coude.
C'est pour ça qu'elle voulait que je t'attende pour déplacer sa grosse armoire.
T'as déplacé sa grosse armoire ?
C'était pas sorcier, mais elle arrêtait pas de me dire que c'était pas prudent.
Ça ne l'était pas.
Je suis pas en sucre.
Tu pèses à peine 50 kilos.
Et alors ?
T'aurais pu te faire mal.
Et toi, t'aurais pu faire un nouveau malaise et jamais rentrer à Eus.
Il se trouve pris au dépourvu. Il est parti sans même y songer. Mais elle a raison, bien sûr. Ça n'était pas prudent. Ça aurait très bien pu arriver. Prendre autant de risques pour une lettre. Il a été idiot.
d'autant qu'elle n'a aucun moyen de le joindre. Elle a dû se faire du souci aujourd'hui.
Pourtant, tu l'as fait quand même.
C'est vrai. Elle ne souhaite pas s'apesantir davantage là-dessus et il est soulagé. Elle demande.
Bon, alors on va à Côme demain ?
Ouais, on va à Côme demain. La prochaine fois qu'il poste une lettre, il l'emmènera avec lui.
Vous êtes bien silencieux tous les deux ce soir.
Myrtille les regarde à tour de rôle. Ils ont pris des couleurs. Le nez de Joanne est écarlate. Émile a la marque de ses lunettes de soleil.
C'est Côme qui vous a fait cet effet ?
Ouais, je crois.
Ils sont arrivés dans le village de ruines sous un soleil brûlant. Ils y étaient seuls. Seuls au milieu des éboulis de pierre. Ça ressemblait à une ville déserte après une catastrophe. Une ville brûlée par la chaleur, où plus aucune vie ne pouvait subsister. Ils ont compris ce que Myrtille voulait dire par beau et dramatique. L'église était là, au milieu de ce paysage de désolation. Elle était ouverte. Joanne s'est recueillie à l'intérieur un temps infini. Émile a songé qu'elle devait être plongée en pleine méditation. Lui est resté à l'extérieur, à l'ombre d'un morceau de mur écroulé. Il était subjugué par l'église. Cette belle église en pierre au milieu des ruines. Il a songé que c'est là qu'il aurait aimé se marier s'il avait mené une autre vie, s'il avait pu se marier d'amour avec une fille qui aurait pu être Laura. Il a essayé d'imaginer à quoi aurait pu ressembler la cérémonie ici. Il a imaginé une Laura plus libre que jamais, les pieds nus, les cheveux détachés, avançant dans une robe blanche, style hippie. Il a imaginé une fine couronne de fleurs blanches autour de son crâne et une seule rose, blanche elle aussi, en guise de bouquet. Il a imaginé sa mère, les yeux humides, dans son tailleur rose pâle. Elle aurait certainement pleuré. Il a vu son père, dans un beau costume très sobre, aux côtés de sa mère. Marjorie aurait porté une robe d'été fleurie et Bastien une chemise blanche sur un jean. Ils auraient accroché des nœuds papillons au cou des jumeaux. Renaud se serait fait houspiller par Laetitia à propos d'un pli sur sa chemise et Tivan en aurait profité pour se sauver à quatre pattes dans les gravats. C'était une scène heureuse. Il souriait tout seul, adossé à son mur à demi écroulé. Quand Joanne est sortie de l'église, elle avait une mine triste. Il s'est demandé à quoi elle avait bien pu penser. Ils ont regagné Eous en silence, sous le soleil de plomb.
« C'est un très bel endroit !»
Ils acquiescent en silence. Myrtille n'insiste pas. Elle comprend qu'il s'est passé quelque chose là-bas et qu'ils ont besoin de rester silencieux. Joanne obtient son acte de naissance le lendemain matin dans sa boîte mail. Émile commence à tourner en rond dans le studio. Il demande à Myrtille en quoi il peut se rendre utile. Elle lui parle d'une étagère dont les boulons sont à resserrer dans sa chambre, d'un vieux vélo qui traîne chez sa fille Annie et qu'il pourrait s'amuser à réparer. Il pourrait se servir de ce vélo ensuite pour se promener dans le village ou pour se rendre au travail s'il compte trouver un travail ici. Il s'attelle à l'étagère le jour même. Le soir, Annie passe voir sa mère et elles dînent toutes les deux dans la cour intérieure. Joanne vérifie et désinfecte les cicatrices d'Émile et elle semble soucieuse.
« Si tu veux réparer ce vélo demain, reste à l'ombre. »«
Pourquoi ?»«
Ta cicatrice sur le crâne n'a pas aimé le soleil hier à Côme. »«
Elle suinte ?»«
Non, mais si tu continues à prendre le soleil, elle partira jamais. » »« Elle restera rouge et bien visible, à vie. »
Il ne peut s'empêcher de hausser les épaules. Qu'est-ce qu'il s'en moque d'avoir une cicatrice à vie ?